Bonsoir à vous, une saison au théâtre avec ce soir la comédienne Marie-Lou Marini. Elle est au centre de la scène du théâtre du Rond-Point à Paris. Elle joue la journée d'une rêveuse et autres moments d'après-copie dans la mise en scène de Pierre Maillet. Elle est le cœur battant d'un livre magnifique, un récit biographique que vient de lui consacrer la journaliste Odile Quirot, récit qui s'intitule « Marie-Lou Marini, chronique franco-argentine », publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs. Elle est le trait d'union qui rallie l'argentin au français, le fil qui s'étire entre deux continents, l'Europe et l'Amérique du Sud. Elle est tragique et comique, enfantine et antique, aérienne et terrienne. Marie-Lou Marini doit-elle, à son départ de l'Argentine, sa terre natale, cette surprenante capacité à savoir transformer l'entre-deux en une présence sur scène ouverte, plurielle et accueillante? Doit-elle, à l'exil, d'avoir su faire de l'art du jeu un mouvement constant que rien ne semble pouvoir figer? Rencontre ce soir avec une artiste qui se cache tout autant qu'elle se raconte sur les plateaux de théâtre. Marie-Lou Marini est au micro d'une saison au théâtre jusqu'à 21h.
He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido.
Quand j'écris un roman, je suis en train de le faire maintenant, je l'écris à la première personne, parce que je suis incapable d'écrire à la deuxième personne. Et je suis incapable d'écrire moi-même. Je ne peux écrire qu'à travers un personnage. Et quand je fais du théâtre ou quand je fais du dessin, c'est pareil. J'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup la femme assise d'ailleurs. Je me suis habitué à ce personnage, comme si j'habitais avec elle. Souvent, je pense à des choses que pourrait dire ou ne pas dire la femme assise dans certaines circonstances, comme si elle était vraiment vivante.
Bonsoir Marie-Lou Marini.
Bonsoir Joël.
Alors on vient d'entendre la voix de Copy, cet auteur de théâtre dont vous êtes vous-même la voix actuellement sur la scène du théâtre du Rond-Point. Copy parlait de la femme assise, c'était ce personnage de bande dessinée qui a habité les pages du Nouvel Observateur dans les années 60-70. Et alors c'est marrant parce qu'il dit, je pense souvent à ce qu'elle pourrait dire ou pas. Nous sommes en 1980 et quelques quand il dit ça. Et quelques années plus tard, vous allez être vous, cette femme assise sous la direction d'Alfredo Arias, sur la scène du théâtre. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui, cette femme assise, en 2017, qu'elle ne disait pas en 84?
Par rapport à tout ce que nous entoure.
Par rapport à tout ce qu'on vient de dire.
Eh merde,
voilà.
La femme assise, je pense qu'elle contemplerait tout ce qui nous entoure et tout ce que nous sommes obligés de vivre et d'endurer aussi, je dirais. Il y aurait un cadre en silence. Elle contemplerait tout ce qui est autour de nous. Après, il y aurait un cadre en silence d'elle. Et après, elle s'affaisserait sur sa chaise et dirait « Eh merde !»
Il faut dire que Copy, c'est d'ailleurs intéressant de le rappeler, à l'époque, publiait aussi des dessins dans Charlie Hebdo et dans Harakiri, et que dans La femme assise, cette dame, assise sur sa chaise, parlait souvent à un petit oiseau. Peut-être qu'aujourd'hui, elle parlerait à des éléphants aussi.
Oui, à des éléphants, à des animaux préhistoriques qui apparaissent, qui font un tour comme ça de manège. Et je crois que peut-être aussi, elle parlerait du ras-le-bol qu'on a vis-à-vis de ceux qui nous entourent comme possibilité d'être gouvernée et dirigée. Mmh. Elle voudrait peut-être... je fais une petite parenthèse. Copy disait, en fait, que la femme assise, et ça lui avait été inspiré des une de ses tantes et une dame qu'il avait connue en Argentine, en Entre Ríos, la province d'où venait sa grand-mère, et qui sont des gens qui sont devant leur cabane, el rancho, comme on dit là-bas, assises devant l'immensité, devant la pampa. Il n'y a rien autour. Et ils contemplent cet horizon vaste. Ils ont ce regard perdu et tout peut passer, comme tout passe dans la femme assise. Et moi, je pense qu'on serait là, nous, devant notre rancho, comme ça, sur notre petite chaise, mais pas en contemplant la vaste immensité, sinon la vaste confusion, débâcle, amalgame de mensonges et de vrais besoins qu'on a comme être humain et comme citoyen de nous représenter. Et je crois que c'est un paysage qui est difficile, qui désole, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut être créatif, nous, individuellement, vis-à-vis de ça, et il faut pas rester dans la défaite. Il faut travailler, je ne sais pas, moi, humblement, dans ce que je fais, je voudrais, avec mon travail, montrer quelque chose qui est né et qui est le fruit d'un travail, pas seulement de quelque chose qui passe par la tête, sinon de quelque chose qu'on veut finir bien, on veut faire une belle œuvre, une belle chose pour le donner aux autres. Et je crois que c'est très naïf et très poétique et pas très concret ce que je dis. La seule chose concrète, ça serait que moi, je continue à faire ma barre tous les jours pour pouvoir donner quelque chose de correct sur le plateau aux gens qui viennent me voir.
Mais justement, Marie-Lou Marini, vous qui avez voué votre vie au théâtre, vous en faites depuis quasiment que vous êtes adolescente, et même enfant déjà, vous animiez dans votre jardin des scènes de théâtre qui n'engageaient que vous, mais c'était déjà là. Qu'est-ce que vous pensez que le théâtre peut apporter comme solution, en tout cas comme ouverture, comme fenêtre possible dans ces temps que nous traversons, qui s'obscurcissent de toutes parts?
Mais pourquoi
vous continuez à faire du théâtre? À quoi ça tient, cette foi que vous avez et que vous n'avez pas cessé d'avoir dans le théâtre? Et là, je parle à une femme qui a dû quitter un pays à cause de la dictature. On va en parler, c'est l'Argentine. Donc, qui a vécu aussi le pire, d'une certaine manière.
Moi, je crois que qu'est-ce que le théâtre peut offrir? C'est justement une possibilité d'un espace d'identité, de liberté et de reconnaissance. Je ne crois pas que c'est absolument nécessaire pour que ça s'accomplisse, qu'on doit faire un théâtre politique dans le sens que, bon, on fait passer un message d'une façon presque didactique. Moi, je pense qu'il faut faire un théâtre, en tout cas ce que j'essaye de faire avec mes camarades, un théâtre qui ouvre la possibilité des réflexions des gens et qui ouvre aussi une possibilité de que les choses peuvent être modifiées, qu'il y a une possibilité de faire avec nos actions d'échanger ou de donner, pas d'échanger le monde, mais d'avoir une relation avec les autres et avec ceux qui nous entourent différentes. Et c'est ça que je pense que le théâtre peut être riche en offrant la possibilité d'élargir la pensée, de dire non, ce n'est pas blanc ou noir, chacun peut trouver un chemin pour arriver à donner une situation différente.
Quand vous arrivez en France, c'est en 1975 que, à votre tour, suivant vos camarades, vos compatriotes, vous prenez un aller simple pour la France, vous quittez Buenos Aires, c'est la dictature, vous avez eu peur, vous avez fait de la prison, vous partez. Vous venez rejoindre la bande, Alfredo Arias, Facundo Bo, et puis il y a aussi, mais peut-être pas de votre bande à vous, mais Jérôme Savary, il y a aussi Georges Laville, enfin ce qu'on a appelé la bande des Argentins, le groupe CTSE. Oui. Lorsque vous êtes tous là à Paris dans la décennie 70, Marie-Lou Marini, vous êtes des jeunes gens qui font du bruit, vous êtes tapageur, vous faites aussi scandale. Quels jeunes gens êtes-vous à ce moment-là? De quoi est-ce que vous rêvez? Qu'est-ce que vous voulez?
En ce moment-là, j'ai rêvé d'une possibilité d'ouverture sur le monde. J'ai rêvé d'un monde où il y aurait les principes de liberté, égalité, fraternité étaient présents dans chacune de nos actions. C'est pas pour faire des massages d'ego à la France que je dis ça, sinon parce que ça venait aussi d'un mouvement un peu, on peut dire hippie comme ça, d'une façon drôle, mais c'était un moment dans les années 70 où on pensait que on pouvait avec notre travail œuvrer un changement, faire un changement, et on pensait aussi que la façon d'être organisé comme le monde était organisé, on pouvait la changer, on pouvait et faire bouger les paramètres sociaux. On ne pensait pas en termes économiques en ce moment,
oui.
Mais on pensait en termes de relations sociales et des relations d'égalité entre les êtres humains.
Et puis vous pensiez aussi sans doute, tous réunis, Arias, Lavelli, Facundo Bo, vous-même, Coppi, Marie-Lou Marini, vous pensiez aussi en migrant où vous étiez.
Oui.
Parce que c'était le cas, oui. Et c'est le cas aujourd'hui de nombre de personnes qui se heurtent à des frontières que certains voudraient fermer. Peut-être que ça aussi, ça constitue une personnalité. Je voudrais vous faire écouter la parole d'un romancier que vous connaissez depuis très longtemps, qui vous connaît lui aussi depuis très longtemps. Lui aussi a pris cet avion de Buenos Aires vers Paris. C'est Alberto Manguel.
Ah.
C'est des liens qui n'ont jamais été coupés. Je suis né à Buenos Aires. Après, je suis parti pendant 7 ans parce que mon père était ambassadeur. Donc la vie à Argentine ne commence pour moi qu'à l'âge de 7 ans, voire 8 ans, et je pars à l'âge de 20 ans. Donc c'est des années très importantes. Mais après, j'ai visité l'Argentine plusieurs fois, et après, dans les années 70, j'ai commencé à avoir des nouvelles de cette horreur qui s'est passée pendant la dictature militaire. Des amis qui disparaissaient, des amis qui ont été torturés, tués, des exilés. Et donc, un pays que je voyais mourir devant mes yeux. Moi, j'étais à l'étranger avec tout le sentiment de culpabilité que cela peut faire ressentir, le fait de s'être sauvé dans les deux sens du mot. Moi, je suis parti avant la dictature militaire. Et donc, tout cela a fait pour moi un rapport émotionnel très très fort avec l'Argentine. Je n'ai jamais voulu y vivre. C'est un pays qui m'appartient parce que j'y ai vécu, mais ce n'est pas mon pays.
France Culture,
une saison au théâtre,
Joël Gaillot.
Voilà, on vient d'entendre Alberto Manguel, Marie-Lou Marini. Est-ce que ça cicatrise, ça? Ce que lui vient de dire, ce que vous avez vécu, même si vous y êtes revenu en Argentine en 84.
Je ne sais pas. Et c'est très particulier, très étrange. Je ne sais pas si c'est très étrange, mais c'est très particulier cette relation qui reste palpitante entre l'Argentine et nous, et moi, je dirais. Je connais Alberto Manguel et je sais combien tout ça est très présent chez lui et dans son écriture aussi. Mais je veux dire, avec l'Argentine, je sens une relation tellement profonde et tellement ambivalente, je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais j'ai un amour profond pour l'Argentine et je suis presque épouvantée des fois par les choses horribles qui se sont passées là-bas durant la dictature et après, quelque sorte aussi pour la corruption et tout ça. Mais je me dis aussi que c'est un pays qui a un potentiel et une générosité énorme vis-à-vis des gens, de nous, des Argentins, de ce qu'elle peut nous offrir comme matière, comme première. Et après, toutes ces matières premières, on était tellement manipulés, bastardés par les pouvoirs, par les intérêts nationaux et internationaux aussi, par rapport à l'Argentine, qui reste comme une pauvre fille belle, exposée au regard pervers de beaucoup des gens et des gens du pouvoir. Et moi, je l'aime profondément, l'Argentine. Et quand je suis là, il y a des choses qui m'indignent comme fonctionnement. Pas pour l'Argentine en elle-même, quand je me promène dans la pampa, ou quand je vais quand je rencontre des gens, parce qu'il y a des gens exceptionnels en Argentine, comme partout dans le monde. Vous me direz, mais c'est, il y a des gens d'une générosité et qui sont clairs, mais j'ai l'impression que c'est une blessure que je ne sais pas si ça cicatrise. Je crois pas. Elle est là. Et peut-être c'est bien qu'elle soit là. Parce que ça nous constitue aussi. Et je veux dire, je suis tellement profondément, j'ai dit mille fois merci à la France parce que elle m'a donné un espace de travail, elle m'a donné une famille, elle m'a donné tellement de choses. Mais l'Argentine m'a nourrie. Je veux dire, tout ce que je peux transformer à travers mon travail, à travers mon expérience, c'est quelque chose qui m'a été donné là-bas. Ça, je ne peux pas le nier.
D'ailleurs, quand on vous voit sur la scène du théâtre du Rond-Point, dans cette mise en scène de Pierre Maillet, qui, je redis, a associé deux textes, au fond, un texte fictionnel qui est La journée d'une rêveuse, et puis un récit autobiographique de Copy, assez peu connu, Rio de la Plata, où Copy raconte comment, effectivement, lui aussi, il a dû partir, et comment était sa vie là-bas. À un moment donné, il dit, donc vous dites, puisque c'est vous qui êtes sur la scène toute seule, Marie-Lou Marini, Copy dit, le départ d'un bateau est triste pour celui qui reste sur le quai, pour celui qui part, c'est un peu la mort, comme dans le refrain. Et là, vous avez les larmes aux yeux, à ce moment-là. C'est pas facile. On sent que ça n'est toujours pas facile. Ce théâtre que vous pratiquez, Marie-Lou Marini, c'est un théâtre de la métamorphose. C'est une chose assez sidérante de vous voir, et de ne pas vous reconnaître. C'est-à-dire que vous êtes à la fois très vieille, vous êtes à la fois très enfantine, vous faites des grimaces et vous n'avez pas peur d'en faire. Est-ce que la métamorphose chez vous, qui fait suite à une grande tradition de travestissement aussi, puisqu'avec Arias, vous êtes beaucoup, beaucoup travesti, quand vous étiez sous sa direction, dans ses mises en scène, oui. C'est une façon aussi de se cacher. Je parlais d'aller sur le plateau théâtre pour se cacher autant que pour se raconter. Est-ce que c'est une façon de se cacher, la métamorphose ?
Non, moi je pense que, moi je le considère comme une partie constituante de mon métier. Je pense qu'un comédien doit être, je ne sais pas si on peut dire ça en français, protéiforme, que doit se transformer, qu'il a cette possibilité magnifique de devenir quelqu'un d'autre en étant soi-même tout le temps. Et moi je ne crois pas que je me cache, mais j'ai...
Ça se cache pas toujours un petit peu, une actrice quand même ou un acteur sur une scène de théâtre ?
Oui, mais on cache une partie de soi-même qui peut-être est la partie sociale, la partie qui a été dressée par le social, par l'éducation et tout ce que constitue le développement d'un être humain. Mais je crois que aussi toutes ces transformations, elles montrent toutes les possibilités qu'on a de devenir quelqu'un d'autre. Ça veut dire qu'on n'est pas une seule personne. On est toutes les possibilités d'imaginaire qu'on a dans la tête. On peut devenir un monstre, on peut devenir une fée, on peut devenir Prospero dans la tempête, et on peut devenir Blanche Dubois. Et on peut, si on veut, si on a la possibilité physique et mentale, on peut devenir tout ça. Mais c'est, moi, je pense que le comédien ne se cache pas en étant un autre, sinon elle se révèle. Il y a tellement de choses à dire de soi-même. Et à fur et à mesure qu'on avance dans la vie, et si on n'a pas peur de se connaître et d'être en face de soi-même, alors on dit, bon, allez, finis le contrôle. Ah, allons-y jusqu'au bout. Et c'est ça que j'aimerais faire sur une scène. Et en plus, là, moi, j'ai deux petits-fils et je vois jouer mon petit-fils au pirate et je dis, j'aimerais avoir cette concentration et cette vérité.
Au pirate?
Et oui, il pense qu'il est le capitaine Crochet en ce moment.
Ah d'accord, alors, c'est des petits-petits-fils.
Oui, le petit-fils de 4 ans, j'ai deux petits-fils, un de 4 ans et un de 1 an et demi. Et le petit-fils de 4 ans qui joue au pirate, la concentration qu'il a, c'est extraordinaire. Bon, c'est ce que disait Genet dans le prologue, comment jouer les bonnes. Mmh. Il faudrait jouer avec le sérieux, la concentration d'un enfant, être sur le plateau.
Dans ce très beau livre, je le redis, parce que c'est rare de lire des biographies aussi inspirées et presque aussi romanesques, alors qu'elles ne se nourrissent que de vérité. Ce très beau livre qu'a signé Odile Quirot sur vous, Marie-Lou Marini, Marie-Lou Marini, chronique franco-argentine aux éditions Les Solitaires Intempestifs, vous racontez, ou elle vous fait raconter, parce que vous avez été très complice dans cette aventure, elle vous fait raconter que depuis très longtemps, vous faites une psychanalyse,
oui.
Que vous n'avez jamais arrêté la psychanalyse, non. Et que la psychanalyse, vous y revenez aussi par rapport au théâtre.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que...
Je n'en parle que parce que c'est dans le livre. Pour certains, c'est
non.
terrain un peu secret.
Non. Pour moi, ce n'est pas secret du tout. Pour moi, c'est quelque chose, comment dire, comme prendre le verre d'eau au lever chaque matin. Pour moi, la psychanalyse, c'est une façon, bien sûr, de me connaître à moi-même, mais c'est une façon aussi d'accéder à mes personnages. J'ai travaille mes personnages, je prends mes textes dans mes séances de psychanalyse. On travaille avec ma psychanalyste, Isaura Verón, on travaille sur mes personnages.
Comment ça, vous explorez quoi, l'inconscient de vos personnages, les pulsions,
Oui, et c'est qui et comment ils se connectent avec moi. Moi, par exemple, avec Caliban,
dans La Tempête que vous avez joué, dans La Cour d'honneur d'Avignon, sous
d'Avignon,
la direction d'Alfredo Arias.
Voilà, ça, c'était un festival. Moi, en plus, j'adorais ce personnage depuis toujours. Je voulais le jouer depuis toujours. Et bon, quand c'est arrivé le moment. Et je me suis dit, et il faut aller vers quelque chose qui puisse atteindre les frontières de l'inconscient, comme ça. Parce que, je veux dire, Caliban, il aime et il est en même temps, sans aucune contradiction. Il peut aimer quelqu'un et il peut haïr la même personne au même moment, sans aucune contradiction. C'est comme dans l'inconscient, il n'y a pas des valeurs établies par un contexte social. Il y a l'élan, il y a l'impulsion, il y a la pulsion, les désirs, la haine, tout ça. Il vit, on sent que ça palpite dans le personnage. Et alors, pour moi, pour aller à une extrême vérité, je suis pédante, pour aller au plus proche de moi-même, voilà, ma seule vérité, c'est ce que je peux offrir depuis moi-même après. Mais je veux dire, je travaille le personnage avec ma psychanalyste pour que ces caractéristiques du personnage résonnent en moi, qu'il n'y a pas un jeu intellectuel pour arriver à cet état, sinon qu'il y a un rapport très intérieur de moi-même avec des choses qui me sont propres, et aussi avoir le courage de dire je peux être méchante, je peux être dégueulasse, je peux être, parce que ça aussi ça fait partie de mes couleurs, ça fait partie de mon âme, ça fait partie de ma personnalité.
Mais c'est pas dangereux ça, Marie-Lou Marigny, d'aller voir au fond du noyau dur qui peut-être en soi n'est pas le plus
non, c'est ne pas le meilleur. Le plus sympathique de soi-même.
Parce que quand vous dites un personnage, il aime et il est dans le même temps, je me disais en moi-même, on en est tous là.
Oui.
Qu'on soit épicier, boulanger, chauffeur de bus, on aime et on est tous dans le même moment. Sauf que peut-être, effectivement, on n'exprime pas.
Voilà, mais par exemple, Caliban, il l'a dit. Il dit qu'il déteste Prospero, qu'il hait Prospero, mais en même temps, il y a une reconnaissance de cet homme qui est là sur l'île, qu'il a déplacé, bien sûr. Mais je vais, en réponse à votre question, ce n'est pas dangereux. Je crois pas que ça soit dangereux d'aller de se confronter à ces parties un peu âpres de soi-même, un peu rugueuses, non, un peu très rugueuses de soi-même. Il faut avoir le courage peut-être de le faire. Et je pense que le pouvoir le montrer sur scène, c'est un luxe incroyable pour un être humain. Pouvoir se montrer dégueulasse sur scène, pouvoir se montrer marginal, haï pour tout le monde sur scène, c'est bon aussi.
Yo sé que quieres llevarte mi ilusión, amor. Yo sé que puedes también llevarte mi alma, pero ay, amor, si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor.
Que el amor.
Quel amour. Êtes-vous vous-même, Marie-Lou Marigny? Merci beaucoup d'être passé nous voir dans Une saison au théâtre. Je rappelle que La journée d'une rêveuse de copie et autres moments, mise en scène par Pierre Maillet, c'est au théâtre du Rond-Point jusqu'au 21 mai. Et je rappelle aussi aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer ce magnifique livre d'Odile Quirot qui vous est consacré. Ça se lit comme un roman, ça s'appelle Marie-Lou Marigny, chronique franco-argentine, et c'est publié aux éditions Les Solitaires Intempestifs.
Ay, amor. No me dejes vivir.
Vous pouvez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Marie Dalquet, Bruno Gagnère-Fontani, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent et vous souhaitent une excellente soirée à l'écoute des fictions. Elles sont présentées par Blandine Masson.
Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también el alma sentir. Si solo queda en mí dolor y vida, ay, amor, no me dejes vivir. No me dejes vivir. Thank you.